powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Revolution, baby.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit encore rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer leur puissance, et c'est ce qu'on va voir tout cet été. Femme puissante, saison 3, avec une actrice oscarisée, une écrivaine sulfureuse, une soprano du barreau, une candidate à la présidentielle, et ce samedi, c'est une réanimatrice qui sauve des vies, qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Bonjour Lila Boidema.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. C'est joli chez vous, on est dans une petite impasse très calme du 20e arrondissement de Paris. Il y a même un petit jardin là.
Non, c'est des cours primitives. Pour les gens qui habitent au rez-de-chaussée.
Et vous habitez au rez-de-chaussée ?
Moi, j'habite au premier.
Arrêtez, vous n'avez pas la cour privative.
On aurait pu l'emprunter. Je crois que les voisins auraient été d'accord, mais j'y ai pas pensé.
Ça vous arrive de venir dans la petite cour, là, prendre un café ?
Moi, non, parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais mes voisins se sont organisés pendant les confinements pour l'apéro.
Et vous, vous étiez à l'hôpital en attendant ?
Moi, j'étais à l'hôpital, mais quand je suis rentrée, parfois très tard, je les ai croisés.
Et voilà. Vous buviez un petit verre ?
Non, ah oui. J'allais me coucher.
Ah oui. Vraiment une vie de... un sacerdoce.
En tout cas, beaucoup de travail, donc quand il est tard, on a juste envie d'aller se coucher.
Enfin, vous avez une vie de moine, quand même.
Moi, oui. Mais on ne peut être médecin sans avoir une vie de moine.
Ouais. On va en parler ?
Ouais.
Vous nous emmenez ?
Oui.
Ah, c'est lumineux, quand même. Vous avez besoin de lumière ?
Alors... en fait, j'ai toujours pensé que non, je préférerais être un peu confinée. Et en fait, non, j'aime bien.
Mais ce qui est bien, non ?
Rares sont les femmes qui auront autant marqué cette épidémie du Covid. Au milieu de l'hystérie générale, des médecins optimistes, des clinistes complotistes, elle était impressionnante de calme, de maîtrise et d'autorité. Impressionnante par sa voix, claire et précise, sans minauderie, sans narcissisme. Par son apparence aussi, femme frêle, petite lunette, pas de cheveux, à cause d'une maladie auto-immune. Impressionnante enfin par son parcours, famille modeste, issue de l'immigration, on lui avait expliqué que médecin, c'était pas pour elle. Elle, il fallait qu'elle pense à se marier et à faire des enfants. Qui l'a entendu parler une seule fois ne l'a jamais oublié. Réanimatrice, professeure de médecine, membre du conseil scientifique, elle a donné sa vie à son métier. Elle nous reçoit dans un joli petit appartement épuré avec beaucoup de plantes. Il lui ressemble, on entend les oiseaux chanter. Lila Boidema est notre invitée. Lila Boidema, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante ?
Jamais. J'aime pas du tout ce mot-là. C'est une des raisons pour laquelle j'ai hésité, en fait, à répondre à votre interview, parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est plutôt dominer quelqu'un, dominer un groupe. J'aime pas du tout ça, j'espère que je suis pas ça. Après, ça peut vouloir dire d'autres choses.
Voilà. En fait, en réalité, je tourne autour de ce mot depuis quelques mois maintenant, autour du concept de femme puissante. À l'origine, je me demandais pourquoi est-ce que ce terme avait une connotation négative quand il s'agissait des femmes, notamment. Un homme ambitieux, c'est quelque chose de positif, ou un homme puissant, alors qu'une femme, c'est plus controversé. Et puis, au fur et à mesure des interviews, j'ai vu que chaque femme avait sa vision de la puissance. Pour Leïla Slimani, c'est le courage de déplaire, être puissant. Pour Christiane Taubira, c'est régler son compte avec la peur. Après, je peux tout à fait entendre que le mot de puissance ne vous plaise pas. Mais moi, pour moi, quand je vous ai vu apparaître sur la scène au milieu de tous ces médecins, vous êtes la seule qui m'a donné cette impression de puissance, de force, de calme, comme quelqu'un qui est centré.
Alors si la puissance c'est une question de force dans le sens solide, j'ai toujours su que je l'étais. Je sais aussi depuis la pandémie que je le suis encore plus que ce que je pensais, parce que ça a été très difficile. Et c'est quelque chose que j'ai pas aimé en moi. Cette idée que je suis une belle machine bien huilée, etc. Je trouve que ça enlève un peu d'humanité. Donc j'aime pas du tout ça non plus.
Ah oui. Pourtant, voilà. On peut être puissante et on peut être humaine à la fois.
Pourquoi, possiblement, mais moi j'ai toujours pensé que c'était négatif. Et pendant cette pandémie, j'ai découvert une autre facette de moi, qui est en fait cette espèce d'ouverture sur le monde, que j'étais perméable quand même au monde, ce que je pensais pas autant en tout cas, et que ça donne une espèce de vulnérabilité, une fragilité, que je ne me connaissais pas. Et il a fallu composer. Alors ça a l'air d'être un peu contradictoire, cette espèce de solidité, de force, et cette fragilité, mais c'est un peu la facette que j'ai découverte en moi, et je trouve que c'est plus humain quand même.
Quelle vulnérabilité ?
Finalement, je me dis, avec le recul, que ma vie était très autocentrée, peut-être parce que le monde me heurte un petit peu, et je me suis demandé, au fond, ce que j'avais fait pendant les 20-30 dernières années. Alors je sais bien ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai soigné des malades, mais je crois que j'aurais dû ou j'aurais pu en faire plus, et que je ne me suis pas rendu compte d'un certain nombre de problématiques que j'ai découvert. Alors, avec le conseil scientifique, mais pas que, avec les interviews aussi.
Comme quoi ?
Sur les femmes, sur la condition des soignantes, etc. Même si je les côtoie tous les jours, la perception qu'a la société des soignantes ne m'était pas apparue aussi clairement.
Voilà. Quelle est la perception, à votre avis, qu'a la société des soignantes ? Et des soignants, mais des soignantes, puisque vous parlez, vous le mettez au féminin.
Alors je le mets toujours au féminin, et on me l'a beaucoup reproché, certaines infirmières me l'ont reproché, mais bon, c'est quand même beaucoup de soignantes, donc je vois pas très bien pourquoi je dirais soignant, mais il y a des gens que ça heurte, que je dise soignante, je vais continuer. En fait, dans cette pandémie, on a vécu, je pense, plusieurs périodes. La période mars, où il y a cette ambiance d'applaudissements le soir à 20h, on va recevoir beaucoup, beaucoup de cadeaux à l'hôpital. Et puis, l'été arrivant, cette espèce d'idée que ces soignants, ces soignantes, elles sont remplaçables. Qu'au fond, on peut trouver des soignantes pour la prochaine vague, comme ça, un petit peu dans la rue, qu'on va les former en 3 jours, en 6 jours, en 3 semaines, en 6 mois, etc. Et ça les a beaucoup dévalorisées, en fait. Cette idée que, parce que ce sont des femmes, il faut quand même bien le dire comme ça, je pense on ne traiterait pas des hommes de cette façon, alors ce métier, il est facile et qu'on peut former des gens assez facilement, alors que c'est un métier qui est extrêmement difficile, très technique, avec beaucoup de responsabilités. Et l'association, je suis une femme, donc je soigne des enfants, je prends soin de mes parents, et au fond je peux être soignante, c'est pour moi quelque chose qui heurte beaucoup. Et puis, une troisième phase, où... l'idée s'est insinuée que s'il y avait eu plus de soignants, s'il faisait plus d'efforts, etc., on aurait pu ne pas confiner à nouveau. Pour nous, c'est, voilà, vous n'êtes pas capable d'assurer.
Vous avez ressenti ça comme ça ?
C'est pas que moi, hein, c'est les soignants en général, oui.
Vous avez été membre, vous êtes membre du conseil scientifique, ce fameux conseil qui a été mis en place par Emmanuel Macron. Vous avez découvert ce que c'était qu'une instance de pouvoir qui avait de l'influence sur la politique. Vous disiez... dans vos avis, nous, on conseille de confiner, on conseille de déconfiner, on conseille de laisser les écoles ouvertes ou pas. Vous avez pris conscience de l'influence que vous aviez à ce moment-là ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait une influence. On est un comité qui donne des avis, mais ces avis ne sont pas forcément suivis.
Vous avez été extrêmement suivi au début de la pandémie, moins par Emmanuel Macron dans un deuxième temps, c'est vrai.
Alors, c'est le principe du comité. Si tous les avis avaient été suivis... on aurait dit c'est la dictature sanitaire, et puis quand les avis sont pas suivis, on dit que c'est le divorce avec le conseil scientifique. Mais c'est une instance consultative et c'est normal, puisque c'est aux politiques de prendre des décisions, que les politiques prennent des décisions. Voilà. Et quand on est médecin, au fond, c'est pas quelque chose d'anormal que ces avis soient pas suivis. Quand vous voyez un malade et que vous lui annoncez une mauvaise nouvelle, qu'il faut faire un traitement, il a un droit de regard. C'est toujours le cas.
Pourquoi il y a eu si peu de femmes au conseil scientifique, en tout cas au début ? Après, ils ont essayé d'équilibrer, mais enfin, au début, il n'y avait quasiment aucune femme.
Alors, j'ai posé la question, enfin la question s'est posée. Dans l'urgence, on ne sait pas trouver des experts femmes.
Et au fond, la parole d'un homme expert, est-ce qu'elle vaut plus aujourd'hui encore, malgré tout, que la parole d'une femme experte ?
Bien sûr, oui. Mais la parole d'une femme en général vaut moins que celle d'un homme.
Vous le pensez vraiment ? Vous ne pensez pas que les choses changent ?
Alors, je ne l'aurais jamais pensé avant. Et c'est ça qui est étonnant. C'est la pandémie qui me fait découvrir que oui, je sais maintenant que mon avis d'expert vaut moins que celui d'un homme qui n'est pas expert du sujet. Moi, je trouve que ce qu'a montré cette pandémie, c'est que au fond, quand il y a l'urgence, etc., on revient au bon principe. Mais c'est ce qu'avait dit Simone de Beauvoir de façon très prémonitoire. Un jour surviendra une crise économique, politique. Alors, elle n'avait pas dit la pandémie, mais les droits des femmes reculeront. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que les droits des femmes qui ont reculé dans cette crise. On voit bien que, moi j'ai vécu ça en mars et en avril 2020, c'est que quand la pandémie survient, tous les filtres, tous les barrières des gens tombent. C'est la première fois de ma vie où, pendant mon travail, je me suis fait insulter.
Par un autre collègue.
Par un collègue, voilà.
J'ai interviewé dans la première saison de Femmes Puissantes la chirurgienne Chloé Bertholus, vous savez, celle qui a sauvé Philippe Lançon après l'attentat de Charlie Hebdo et qui l'a célébré après dans son livre Le Lambeau. Pour Chloé Bertholus, la puissance pour un médecin, c'est la responsabilité, c'est ne pas trembler quand on effectue un geste médical. On l'écoute.
Il y a un vers de Sophocle qui dit « Le bon médecin ne récite pas de formule magique au-dessus d'un mal qui appelle le fer ». C'est pas anodin de prendre un bistouri pour aller ouvrir quelqu'un et faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Donc il faut un ego surdimensionné pour se dire « je suis la bonne personne pour faire cette chose-là ». Si on n'est pas la bonne personne, on doit confier moralement ce patient à quelqu'un d'autre. Donc on fait plus rien, parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous. Si vous pensez pas au moment de le faire que vous êtes la bonne personne, bah vous faites plus.
Alors je suis pas du tout d'accord. Alors la puissance, c'est effectivement, ça peut être l'impact qu'on a sur les gens. Et nous, on a l'impact de soigner et éventuellement de sauver des vies. Et au fond, au cours de mon parcours médical, je trouve qu'après 20 ans d'exercice, la médecine, ça doit rendre humble, modeste. Que si on n'est pas devenu modeste en exerçant la médecine, quelque part, on s'est trompé de chemin, on s'est fourvoyé. Parce que au fond, on sauve jamais personne tout seul. C'est un travail d'équipe. Et moi, je pense pas que dans ma vie, je peux dire « à ce malade, je l'ai sauvé ». Et même quand on est chirurgien, on n'opère pas un malade tout seul, il faut un anesthésiste. Sans anesthésiste, Chloé Bertholus, eh bien, elle ne peut pas opérer son malade. Donc elle peut considérer qu'elle a sauvé son patient, mais moi je considère que c'est un ensemble, une équipe qui a sauvé son malade.
Ouais. Quand on n'arrive pas à ramener un patient à la vie, ça a été le cas puisque vous avez soigné le premier malade du Covid en France, un touriste chinois, il est décédé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Quand la mort est plus forte, au fond, vous vous êtes sentie impuissante?
Alors, moi, je considère qu'à partir du moment où on a fait son possible pour un malade, le fait qu'il décède n'est pas un sentiment d'impuissance ou un drame, etc. À partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait.
Écoutez ce que disait à l'antenne de France Inter le professeur Axel Kahn, atteint lui-même d'un cancer. Et sur sa mort prochaine, comment il envisageait ce moment où on passe de la vie à la mort, ce moment que vous voyez presque tous les jours à l'hôpital, vous?
C'est intéressant comme expérience. On ne la vit qu'une seule fois, puisqu'ensuite on est mort. Je me demandais quelle serait, au-delà de ce que je voulais qu'elle fût, quelle serait mon attitude en m'approchant de la mort. Voilà, je m'en approche. Et donc je le vis, je ne le fais pas en chantant. J'aime la vie, mais je ne le fais pas non plus dans la terreur.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet extrait?
Alors, je l'ai trouvé, je ne sais pas, d'une sagesse extrême. Il avait l'air apaisé, à vrai dire.
Vous la voyez, la peur de la mort dans les yeux des patients?
Non, on ne la voit pas parce que souvent, nos malades, quand ils sont très graves, ils sont inconscients. Ce que j'ai vu pendant cette pandémie, c'est des malades arriver, même pas forcément grave, avec cette espèce de terreur, parce qu'ils avaient entendu que dès qu'ils étaient en réanimation, il y avait un ventilateur et ils allaient mourir, etc. Et j'ai vu plusieurs malades refuser d'être intubés, parce que pour eux, ça signifiait la mort. Voilà, une façon de déguiser la mort. Et un malade qui avait son ventilateur derrière lui, puisque dans chaque chambre, il y a un ventilateur, même s'il n'est pas branché, qui était absolument terrorisé, et qui répétait « m'entubez pas, madame, m'entubez pas », qui l'a répété 1000 fois, je pense que c'est le pire moment de ma carrière. Cette espèce d'absolue terreur, je n'avais jamais vu ça, parce qu'a priori, les gens viennent pour qu'on les soigne, et pas dans l'idée que parce qu'ils sont là, alors forcément la mort est derrière.
Dans un entretien très fort au journal Le Monde, vous disiez combien cette épidémie était tragique et dure. Vous racontiez qu'il y avait deux femmes en vous. D'un côté, le médecin qui fait les gestes tous les jours et qui tient et qui doit tenir. Et en même temps, une autre personne qui a envie de pleurer tous les jours. Comme cela ne m'était jamais arrivé avant dans ma vie, avez-vous dit. Ce qui m'en empêche, c'est le manque de temps. Vous aviez dit ça, cette phrase très forte qui m'avait énormément touchée dans Le Monde. Est-ce que depuis que vous l'avez prononcée, cette phrase, vous avez eu le temps pour pleurer, Lila Bouadma?
Il y a chez moi quelque chose qui est que si je me mettais à pleurer, ouais, les choses s'arrêtent là et je ne peux pas continuer. Donc non, le temps que j'ai eu, je ne l'ai pas pris pour faire ça. Au fond, je suis quelqu'un qui pleure pas du tout. Je me souviens pas de la dernière fois. Je me souviens pas pourquoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Je sais pas trop quoi faire avec.
Cette envie de pleurer, d'où elle vient?
Je sais pas. C'est quand même beaucoup de morts par jour. Alors, le cumul de ces gens qui meurent, cette ambiance dans la rue, ce confinement au travail, c'est quelque chose d'extrêmement curieux où on perd un peu tous ses repères. Alors, quand on est médecin, on a cette capacité qui s'acquiert à laisser les choses derrière. C'est-à-dire que quand moi je quitte l'hôpital, jamais je pense aux malades, jamais je pense à la mort, je me réveille pas la nuit, je fais pas de cauchemars, et j'en ai pas fait d'ailleurs pendant cette pandémie. On m'appelle au téléphone, je réponds à la question, on discute d'un malade, je raccroche et c'est fini, je passe à autre chose. Au fond, la pandémie, ça a ça de particulier, c'est que tout se chevauche, s'entrechoque. Il y a la pandémie au travail, la pandémie quand on sort. C'est extrêmement difficile.
Vous espérez quand même profiter des jours heureux?
Ouais, en fait, c'est curieux, c'est que j'avais jamais eu peur de l'avenir avant. Et au fond, pour la première fois de ma vie, j'ai peur de ce qui se passe après. Je m'étais jamais vraiment questionnée, j'avais plein de certitudes, j'étais très enthousiaste, j'étais sûre que la vie c'était ce qu'on en faisait, etc. Aujourd'hui je suis beaucoup moins sûre, voilà, j'ai très peur du monde d'après. Voilà. Et par conséquent j'ai vraiment du mal à profiter des choses, voilà, parce que je ne sais pas de quoi ça sera fait l'avenir, et le mien, et l'hôpital, etc.
Le ZAP.
Tous les Français ont droit à des soins.
Voici la professeure Lila Bouadma.
Des femmes puissantes, singulières, au destin hors du commun.
Lila Bouadma, qui est réanimatrice à l'hôpital Bichat.
Et nous commençons ce soir avec...
Abandonner un malade.
Lila Bouadma.
Parce que je ne peux pas avoir les moyens de le soigner, ça c'est inacceptable.
Aujourd'hui, professeure, c'est elle qui mène la visite du malade.
Je ne sauve jamais personne toute seule.
Lila Bouadma, vous dites, vous avez dit à plusieurs reprises, je suis née en deuil.
Voir mon frère mourir, et personne... pour essayer de l'aider.
Elle a 9 ans, c'est décidé, elle sera médecin.
Vous avez changé de classe sociale, est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose d'une exemplarité là-dedans?
Ce mépris de classe qui était très présent à l'époque, alors c'est les années 70, fin des années
près
70,
de
près de Belfort.
Lila Bouadma, pour l'instant le confinement est prévu jusqu'au...
Filles d'immigrés et femmes, il a fallu se battre.
Jamais je laisserai, y compris des gens pauvres, âgés, etc., décédés.
Deux notions, la vocation et une détermination inflexible.
Ça, c'est pour moi une priorité.
Celle qui a pris en charge les premiers touristes chinois infectés par le coronavirus hospitalisés en France.
Ce soir, on reçoit une femme au cœur de la bataille contre le coronavirus depuis le tout début.
À mon sens, cette crise sanitaire a mis en évidence une inégalité préexistante.
Quand la pandémie sera finie, elle espère retrouver son anonymat.
Vous voyez, il n'y a pas que moi qui trouve que vous êtes puissante.
Mon
hein.
Dieu. Mon Dieu. Oui, bon.
Comment vous avez vécu cette soudaine exposition, cette notoriété nouvelle?
Alors, curieusement, le jour où on m'appelle pour faire partie du conseil scientifique, la première chose qui me vient à l'esprit, le coup de téléphone ne dure pas très longtemps, c'est le cabinet d'Olivier Véran. Je me dis que, oui, il va y avoir de l'exposition, que forcément, ça ne peut pas être... un conseil placé auprès d'Olivier Véran sans qu'il se passe rien. Je dis oui, hein, parce que je vois bien que c'est très important. Et en fait, j'avais pris beaucoup de soins à faire en sorte de passer inaperçu. Et là, je comprends qu'effectivement, il y a quelque chose à donner. Il y a de l'exposition, qu'il faut accepter ça, que c'est voilà, le côté, je ne sais pas si c'est négatif, mais le côté où il faut donner un peu de sa personne. Voilà.
Mais est-ce que c'est négatif à la fin? Parce que vous avez reçu aussi beaucoup de témoignages de respect, d'amour, d'admiration. Chaque interview que vous avez donnée a marqué les gens.
Oui, mais je sais aussi que tout passe très vite. Alors, je ne sais pas si c'est mon espoir, mais je sais qu'on oubliera, voilà, parce que je ne suis pas
une femme politique, parce que je ne suis pas un artiste, parce que je ne suis pas une intellectuelle. Et donc ma place, elle n'est pas dans les médias.
En tout cas, cette interview, elle va rester de vous. C'était À la folie de Juliette Armanet.
J'ai même pas eu le temps de planter.
Ça vous apaise de planter ?
J'aime bien planter, oui. Et j'ai planté quand on a passé le cap des 100 000 morts. Je sais pas, j'avais besoin de planter.
Et on retrouve Lila Bouadma sur Inter.
Vous avez planté quoi ?
J'ai planté celle-là, les pivoines. Je sais pas si elles vont pousser, mais.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
À chaque femme, je demande un objet. Vous avez choisi quoi, Lila Bouadma ?
Alors, j'ai choisi un jeu qui est un alphabet pour, ouais. pour les enfants.
Pour les enfants de 3 ans.
Pour les enfants,
c'est
oui,
ce jeu que vous avez entre les mains ?
Oui. Alors, quand j'étais enfant, j'avais eu l'idée un peu saugrenue d'apprendre à lire à mon frère. Donc, on a 9 ans de différence. Donc, je devais avoir 12 ans. Il en avait 3. Alors, évidemment, j'avais pas les moyens d'acheter un jeu comme celui-là. Je sais même pas si ça existait. Et donc, j'avais une règle où on pouvait faire les lettres. Et donc j'avais eu l'idée de fabriquer cet alphabet avec des petits carrés. Donc je lui avais dit « je te prépare une surprise ». Donc il était très content. Donc j'ai mis plusieurs après-midi à couper au ciseau et à faire les lettres, etc. pour lui apprendre à lire. Et quand je lui ai présenté mon alphabet papier tout ringard, il a été très déçu.
Oh.
Et j'ai été très vexée. Voilà. Mais pour donc moi, c'était très important, en fait, de lui apprendre à lire. Alors, j'ai quand même réussi à lui apprendre les lettres et quelques syllabes, mais c'était une espèce d'obsession, en fait.
Vous dites que vous ne seriez jamais devenu médecin si votre petit frère n'avait pas été malade, Lila Bouadma, s'il n'avait pas failli mourir quand vous aviez 9 ans. Que s'est-il passé ?
Alors, il avait une méningite. Bon, ça, je le sais maintenant, hein, mais au départ, je ne le savais pas. Et c'est un petit village près de Belfort.
Cité ouvrière, vos parents sont arrivés de Kabylie à la fin des années 60. Eux ne savent ni lire ni écrire. Votre père était ouvrier dans une usine de fil de fer. Votre mère, femme de ménage, voilà pour le contexte. Et donc, votre petit frère tombe malade.
Il est malade et donc on m'envoie chercher le médecin. Alors, à l'époque, on n'a pas le téléphone. Donc, il faut aller au cabinet médical, sonner. Donc, c'est le début de la semaine, hein, puisqu'il va être hospitalisé le samedi. C'est le lundi, donc je sonne, je dis pourquoi je viens. Alors le docteur va passer, c'est ça qu'on me répond. Donc il va venir, effectivement, donner des antibiotiques. Donc l'infirmière, qui est à l'époque une sœur, hein, vient faire les injections. Et puis le mercredi, on me renvoie. Donc je sonne et là, la secrétaire est très agacée parce que le médecin s'est déjà déplacé. Et puis on me renvoie une troisième fois. Et puis là, je me fais un peu sermonner.
Et puis votre frère ne guérit pas.
Mon frère ne guérit pas. Et le soir, en fait, il convulse. Alors, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, mais je vois dans les bras de ma maman, il saute en l'air, elle n'est même pas capable de le tenir parce qu'il a des mouvements anormaux. Et là, ben, on rappelle le médecin et ben, il vient, mais je ne sais pas, je l'ai senti extrêmement dédaigneux. Et c'est les voisins qui vont appeler les pompiers, en fait. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les voisins, du premier coup, on les écoute, en fait. Et les
parce
pompiers
qu'il
vont arriver.
Français, sans accent.
Alors, ils parlent français ou ils sont capables d'expliquer aussi. Peut-être que mes parents ne posaient pas forcément les bonnes questions ou voilà, peut-être pas assez insistants. Hein. Faut voir qu'ils sont opprimés, c'est pas le mot, mais ils ne contestent pas. Voilà, ils ne contestent pas ce que dit le médecin. Pas eux qui savent ni lire ni écrire, de quel droit. À ce moment-là, le médecin, c'est le notable du village.
Et donc les pompiers viennent, ils prennent votre frère est sauvé, mais à ce moment-là, vous gardez, au fond de vous, vous avez 9 ans, l'idée, la certitude que vous serez médecin.
Oui, 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 parce que dans mon idée d'enfant, c'est très simple. Pour moi, le médecin, il n'a pas appris sa leçon, voilà. Je me dis que je peux faire aussi bien. C'est tout. En fait, c'est idiot. Hein. Je pense qu'il y a des maladies, des signes, des traitements, et que tout ça, je peux l'apprendre. Voilà. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Voilà. J'ai compris que c'était grave, parce qu'il s'est mis à pleurer.
Votre père, vous en parlez. Quel père était-il ? J'ai remarqué chez toutes les femmes puissantes que j'interviewe qu'elles ont un rapport particulier au père, soit qu'il les ait poussées, soit qu'il les ait empêchées. Quel père était votre père ?
Aucun de mes deux parents ne m'ont poussée. Jamais à l'école. Mon père avait cette particularité. Il était très secret. J'ai jamais su la moitié de sa vie. Il est arrivé en France beaucoup plus tôt que ma mère. Il était très taiseux, mais il était très protecteur. Voilà. Et je savais qu'avec lui, il ne m'arriverait rien parce que j'avais très très peur de ma mère. Voilà.
Alors votre mère, justement. Votre mère, vous dites, elle était d'une grande violence, à la fois physique et morale.
Ouais. Oui, je ne sais pas s'il y a besoin de plus d'explications. En tout cas, elle me faisait très, très peur. Voilà. Je faisais tout bien parce que j'avais très peur. Et au fond, elle était imprévisible, en fait. Et c'est vrai que souvent, j'ai attendu mon père qu'il rentre du travail parce que je savais qu'il n'arriverait rien.
Quand votre père était là, il vous arriverait.
Quand il était là,
oui. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Gisèle Halimi dans À voix nue sur France Culture en 2011. Écoutez les mots qu'elle emploie quand elle parle de sa mère. Ça m'a fait penser à vous.
J'ai jamais senti que ma mère m'aimait vraiment. Alors on me dit que je me suis trompée, mais c'est possible. Parce qu'il est possible que l'absence d'éducation fait qu'on a une pauvreté d'expression. Donc il est possible que dans cette pauvreté d'expression, elle ne l'ait pas exprimée. Mais j'ai toujours eu le sentiment, j'ai écrit un livre là-dessus qui porte le nom de ma mère, Fritna, qui est fortunée en arabe, et où je dis que ma mère ne m'aimait pas. Alors on m'a dit que je me trompais, qu'elle ne l'exprimait pas, c'est possible. Mais ce qui est important, je crois, c'est que je me suis ressentie comme mal aimée, en tout cas, par ma mère.
Alors, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec ma mère de ça. Ce que je sais, c'est que j'ai aucun souvenir d'elle me touchant, m'embrassant ou jamais. Voilà.
Aujourd'hui, elle est fière de vous, votre mère ?
J'en sais rien. J'ai arrêté de communiquer avec elle il y a une dizaine d'années, qui m'a d'ailleurs fait un grand bien. En fait, j'ai longtemps attendu une réponse. Et je crois qu'elle est malheureusement pas capable, parce que je pensais qu'il y avait, comme le dit Gisèle Halimi, hein, quelque chose de cet ordre-là, de pas aimer ou de difficulté, et cette réponse, elle viendra pas. Et puis un jour, assez brutalement, j'ai compris que, au fond, il n'y avait pas d'explication. Elle est probablement d'une intelligence assez médiocre. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, j'avais tous les signes pour savoir ça, mais que jamais je me suis dit, au fond, c'est quelqu'un de frustre
Et voilà, c'est des choses qu'elle comprend pas, elle aussi. Et je lui ai toujours trouvé beaucoup de circonstances atténuantes, en fait, puisque sa
vie
est quand même,
quand on est enfant.
Bien sûr, sa vie est quand même très difficile. Elle arrive en France alors qu'elle est très jeune, elle ne parle pas français, éloignée de sa famille. Elle va avoir rapidement des enfants, c'est compliqué. Donc oui, j'ai toujours trouvé des circonstances atténuantes.
On pourrait imaginer que l'école vous a sauvé, d'une certaine manière elle vous a sauvé, mais pas seulement. Vous racontez cette anecdote toujours dans Le Monde. À 7 ans, vous dites que votre institutrice à l'école française vous dit « Ton but à toi, ce n'est pas d'apprendre, c'est de te marier, d'avoir des enfants et d'apprendre l'arabe. » Vraiment ?
Vraiment.
Mais qui était cette institutrice qui dit ça ?
Alors, juste, l'école, pour moi, c'est quelque chose de magique, de lumineux. Au fond, enfin, j'apprends quelque chose et ce que j'apprends, je peux m'en servir tout de suite. Et d'ailleurs, je peux m'en servir aussi pour ma famille. Et puis, cette institutrice me dit ça un jour où, au fond, je n'ai rien fait de spécial. C'est plutôt ma sœur qui, à la récréation, a eu des problèmes et j'ai dû la défendre. Et donc, elle me convoque, elle me dit ça. Mais en fait, on sent bien que c'était l'envie qu'elle avait de me dire ça. Et ça dure très, très longtemps, en fait. Je sais pas, je pense que ça a duré trois quarts d'heure, une heure. Je m'en souviens pas forcément. Ce dont je me souviens, c'est que je me suis mise à pleurer. Parce que c'était le seul moyen de défense. Et au fond, je vois bien que plus je pleure et plus elle insiste. Voilà. Donc, c'était une idée fixe. Voilà.
Donc, c'était quoi ? Elle était méchante ? Elle était raciste ? Elle était quoi, en fait ?
Les deux en même temps, non ? Voilà.
Mais je voudrais vous faire entendre un autre extrait de Gisèle Halimi dans La Voix Nue, toujours sur la malédiction d'être née femme dans certaines sociétés.
Être une fille était une malédiction, et ça, je l'ai senti très tôt, parce que à chaque étape de ma vie, il y avait un jalonnement d'handicap qui venait du fait que j'étais une fille. La fille, à l'époque, c'était une charge d'abord parce que, économiquement, on ne la formait pas pour gagner sa vie. Il n'était pas question d'indépendance économique. Ensuite, une fille, c'était un lourd fardeau parce qu'il y avait tous les tabous sur la virginité, sur le fait qu'une fille qui est sortie avec un garçon, elle est sale, comme disait mon père. Donc, je suis née dans cet amoncellement de tabous concernant les filles, ce qui fait que très tôt, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi ces handicaps absolument majeurs qui vous réduisaient par rapport à l'homme. Poser la vraie question, qu'est-ce qu'on est, quoi ?
Du malheur d'être née femme ?
En fait, je n'avais pas pensé à tout ça avant. Je ne m'étais pas considérée comme... Alors, la maîtresse me dit ça, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit, en fait. Je vais raconter ça à ma mère et elle me dit « Tais-toi ». Donc je comprends bien qu'il y a quelque chose de tabou, mais au fond, je ne comprends pas. Ce qui est sûr, c'est que personne ne m'a jamais empêchée d'aller à l'école. J'étais plutôt bonne élève, donc je ne comprenais pas.
Mais où vous avez trouvé la force quand même d'aller jusqu'au bout ?
Mais en fait, c'est curieux parce que tout le monde me dit ça, que le parcours est défie les statistiques un petit peu. Hein. C'est ce que j'ai entendu dans l'extrait, une espèce de transfuge de classe. Et même quand les journalistes l'ont écrit... que éventuellement on me l'a rapporté ou que je l'ai lu, j'ai pas vraiment prêté attention. Pour moi, c'était pas curieux. Je trouvais que j'avais une ambition légitime, que je me donnais les moyens de faire et que voilà. Et en fait, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui défiait les statistiques parce que mon frère me l'a dit. Voilà, parce qu'il a lu une interview, il m'a dit « Tu te rends compte ?» Alors, il y a des façons de calculer le nombre de classes qu'on saute. Il m'a donné un chiffre, je me souviens pas, etc.
Et vous avez sauté combien de classes sociales ?
Je sais pas, il m'a dit un truc énorme, en fait, mais toutes, en fait, je crois.
Mais oui, je crois que vous avez sauté toutes les classes.
Voilà, et donc je comprends ça, que parce que lui me le dit, mais quand c'est les autres, pour moi, ça me paraît toujours un peu étrange, parce que, au fond, l'école, elle est... gratuite, républicaine, laïque, et donc voilà, on peut y arriver.
On peut y arriver.
Voilà.
Et vous êtes le produit de la méritocratie républicaine, quand même. Si on veut mettre des grands mots un peu lourds.
Alors, j'ai reçu beaucoup de lettres d'instituteurs qui me disaient, au fond, de quoi vous vous plaignez, puisque finalement, c'est quand même l'école qui vous a permis d'être là où vous êtes, et donc elle a réussi sa mission. Mais mon propos, il est pas là, en fait. Je crois que l'école, on s'imagine que c'est quelque chose d'une espèce de suspendu, une institution un peu suspendue, un peu comme l'hôpital, et qu'il n'y a que des gens extrêmement bienveillants à l'intérieur, Et au fond, non. Moi, je reçois beaucoup de familles qui me disent « j'ai eu un problème avec un soignant, donc j'examine quand même ce qu'on me raconte. » Au fond, c'est des problèmes relationnels, etc. Et ce que je leur explique, c'est que dans un hôpital, c'est comme dans une société. Il y a des gens qui ont des caractères différents, des esprits différents, des idées différentes. Et l'école, c'est exactement ça. Et qu'au fond, pour changer l'école, il faut changer la société. Ni plus ni moins, il n'y a pas plus de gens bienveillants dans l'école que de gens malveillants.
Alors à l'hôpital, plus tard, vous faites toutes vos études que vous réussissez parfaitement et puis vous voulez devenir professeur. Et pour devenir professeur, il faut passer un certain nombre d'étapes, de concours, etc. Et de commissions et d'oraux. Sauf que vous, vous avez eu droit à une commission spéciale en plus devant trois professeurs, trois hommes, qui vous ont dit en substance que même si votre CV était parfait, vous n'étiez pas digne de l'université. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, encore ?
Alors,
vous les cumulez, quoi.
Non, je les cumule pas. Je pense que j'ai quand même une façon d'être qui fait que ça bouscule un peu les gens, ou que ça les irrite, je ne sais pas. Cette commission, elle n'existe pas, donc elle est effectivement dédiée à moi. Pourquoi ? Parce que, vraisemblablement, dans un oral précédent, on m'a trouvé... odieuse, en tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté.
Caractériel. Vous dites un homme, c'est charismatique, une femme, c'est caractériel.
C'est exactement ça, qu'avait pas préparé, alors que tout le monde sait très bien que je prépare toujours. Alors, c'était peut-être mauvais, hein, c'est possible. Et puis, cette commission qui sort de nulle part, avec trois hommes qui m'assènent, évidemment, c'était pour me faire sortir de mes gonds. Hein, c'était ça l'idée. L'idée, c'était de prouver que j'étais effectivement caractériel, hystérique ou je ne sais quoi d'autre. Ça va pas marcher parce qu'en fond, c'est tellement grossier que j'ai même pas envie de partir. Donc, je vais répondre calmement à leurs questionnements, etc. Et ces hommes-là, ils exercent toujours dans la même université que moi. Hein. Faut pas rêver, personne ne leur dira quelque chose.
Vous les avez recroisés, vous ?
Oui, bien sûr.
Et ?
Et rien, voilà.
Ils savent, eux, ce qu'ils ont fait ?
J'espère qu'ils lisent. Voilà.
Vous sortez de ça comment ? En colère ? Découragé ? Démoli ? Ou ça va ?
Alors, pour la première fois, quand même, je suis démolie. Voilà. Parce que je n'avais pas réalisé avant qu'au fond, mes caractéristiques, d'être arabe, d'être une femme, etc., ça causait un problème. Ou alors, je ne me l'étais pas avoué. Ce qui est plus probable, quand même, hein, parce qu'évidemment, c'est un problème. Mais je n'avais jamais trouvé comme excuse le fait d'être une femme ou d'être arabe, etc. C'était un peu trop facile. À chaque fois que j'avais un problème, je me disais « travaille plus ». Jamais j'aurais mis ça en avant comme une excuse. C'était vraiment un aveu d'échec que je ne pouvais pas supporter. Et au fond, je découvre assez brutalement que si, bien sûr, ça existe. Et je suis démolie parce que je me dis « mais je vais faire partie de ce corps-là, vraiment. T'as fait tout ça pour ça, pour faire partie de ces gens-là qui sont en face de toi et qui t'assènent des choses comme celle-là. » Ça me paraît un peu difficile. Alors, je vais être nommée professeure, je ne sais pas très bien pourquoi. Finalement, certains savent, certains m'ont écrit à la suite de l'interview de Solène de Royer qu'ils savaient, qu'ils me diraient un jour.
Qu'ils vous diraient quoi ?
Je ne sais pas.
Ce qui s'est passé ou pourquoi finalement vous êtes
nommée ? Pourquoi finalement je suis nommée ? Ou grâce à qui ?
Lila Bouadma, vous avez beaucoup d'admiration pour Simone de Beauvoir, mais vous ne comprenez pas sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ceci dit, elle est un peu opaque, hein, cette phrase. Ça fait
alors,
quand même
je crois qu'elle dit ça
60 ans qu'on essaie de la comprendre.
Oui, c'est pas moi qui veux l'expliquer. Alors, non, mais je crois qu'elle dit qu'en fait, c'est la société qui fait qu'on se comporte comme des femmes ou comme des hommes. Et il y a quelque chose qui est particulier dans ma vie à moi, c'est que dans la vie courante, tout le monde m'appelle toujours monsieur.
Pourquoi on va l'expliquer pour ceux qui ne vous voient pas, parce qu'on est à la radio ? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle monsieur, à votre avis ?
Parce que je n'ai pas de cheveux et que, bon, voilà, j'ai un physique qui peut permettre de confondre, hein, ce qui, d'ailleurs, je ne reproche rien aux gens, c'est normal, ils m'appellent monsieur.
Vous n'avez pas de cheveux parce que vous souffrez d'une maladie auto-immune.
C'est ça, j'ai une pelade. Et cette injonction monsieur, je ne sais pas pourquoi, mais il m'est impossible d'y répondre. C'est-à-dire que les gens me disent monsieur. Et puis monsieur avec un ton plus fort, et en général se mettent à crier, et à ce moment-là je comprends qu'on s'adresse à moi. Et c'est comme si il y avait quelque part en moi l'idée que je suis une femme, je ne sais pas pourquoi, c'est ni physique, ni biologique, ni lié à l'éducation, mais je ne peux pas répondre à l'injonction monsieur.
On va écouter Simone de Beauvoir.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologiques, psychologiques, qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière. C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Alors je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue médical, on pourrait dire des choses comme celle-là, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont les chromosomes d'un mâle et puis qui se sentent femmes ou l'inverse, donc c'est la dysphorie de genre. Je ne suis pas sûre que les explications elles soient simplement liées à la société. On voit bien qu'il y a des enfants qui grandissent dans un corps de femme, dans l'idée avec leurs parents que ce sont des filles, et puis finalement qui ne se sentent pas filles du tout. Donc je ne suis pas sûre que l'explication elle soit si simple que ça.
Vous vous sentez femme, vous ?
Non. Mais je sais que je suis une femme. Mais après, voilà, si vous me parlez des codes classiques, je ne les ai pas, voilà. Je me vois mal me maquiller ou porter des talons hauts. Non, je ne sais pas faire ça, voilà.
Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes féministe ?
Alors, si féministe, ça veut dire que les femmes ont l'importance égale aux hommes, bien sûr, oui. Je pense que c'est un principe intangible.
Le mouvement MeToo, vous en avez pensé quoi ? Il a commencé dans le milieu du cinéma, avant de toucher toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'il a touché l'hôpital ? Et est-ce que c'est un sujet qui vous a intéressé, cette libération de la parole des femmes ?
Alors, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'ai jamais été confrontée à un problème de genre-là, jamais. Peut-être parce que les gens me prennent pour un homme. Voilà, ça me protège. Jamais.
Il y avait une grande enquête en 2017 dans l'Express qui montrait que 61% des étudiantes en médecine disaient être régulièrement victimes de sexisme ordinaire et que 88% des internes sont témoins de blagues sexistes assez souvent.
C'est vrai, hein. Moi, j'ai déjà raconté que quand je fais des réunions de professeurs même, des réunions, il y a souvent beaucoup d'hommes. Et ça finit invariablement par une blague sexiste qui, quand vous faites la remarque, c'est « mais c'est pour rigoler ». Voilà, c'est toujours pour rigoler le sexisme.
Vous êtes pour les quotas, Lila Bouadma. Il faut faire des quotas pour qu'il y ait autant à poste égal de femmes que d'hommes ou non, vous n'y êtes pas favorable ?
Alors, j'ai toujours été contre. C'est marrant parce que j'ai discuté avec des jeunes collègues qui m'ont dit exactement la même chose. Plus jeune, puis j'ai dit « mais pourquoi on me donnerait un espèce de privilège parce que je suis une femme ?» Et au fond, je vois bien que si on n'instaure pas quelque chose de ce genre-là, alors le monde est construit par des hommes pour des hommes. Et c'est ce qui va se passer dans le monde
d'après.
Donc
vous avez évolué comme beaucoup de femmes.
Oui.
Vous y étiez hostile et finalement vous dites peut-être
qu'il
faut. Je
pense qu'on ne s'en sortira pas. Il faut les deux pour pouvoir effectivement construire peu à peu un homme, un monde où il y a et les hommes et les femmes.
Joli lapsus, hein, on va le laisser.
J'ai entendu une députée espagnole qui disait « Être féministe, c'est comprendre que s'il y a autant d'hommes que de femmes, le monde sera meilleur, et pour les hommes et pour les femmes. » Je pense que c'est à peu près ça. Voilà.
Et vous pensez ça ?
Oui.
Qui sera meilleur ?
Oui.
Et pourquoi ? Parce que les femmes seraient meilleures ?
Alors, pas parce que les femmes seraient meilleures, mais parce que la diversité, qu'elle soit homme-femme, mais aussi des diversités d'autres choses, elle est toujours bonne pour tout le monde.
À chaque femme que j'interviewe dans cette série, Lila Bouadma, je demande une chanson qui incarne pour elle les femmes puissantes. Vous avez choisi ça.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux.
France Inter, femme puissante, Léa Salamé.
Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer nos frissons. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Il n'y a pas d'amour heureux, c'est la version chantée par Daniel Darieux dans le film Huit femmes d'Ozon. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Alors, j'ai choisi cette chanson, pas parce que ça incarne forcément les femmes puissantes, mais parce que ça dit beaucoup de la condition humaine. En fait, on pense toujours que c'est une chanson sur l'amour. Donc c'est une chanson de Georges Brassens, mais sur un poème d'Aragon, en fait, qui est amputé de sa dernière strophe, et qui dit plein de choses sur la condition humaine, et notamment la dernière strophe qu'on n'entend jamais, qui est très patriotique, en fait. Et,
Qu'est-ce que ça dit, cette dernière strophe ?
Alors, je peux la chanter.
Allez-y !
Alors, du coup, j'ai un trou de mémoire, alors je prenne le texte, mais...
Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour heureux.
Vous avez une voix magnifique. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'amour en général et sur l'amour de la patrie et sur la condition humaine ?
Ça parle des soldats, ça parle de l'amour, ça parle aussi de la condition humaine en général. Ouais, c'est une chanson qui me parle. Alors, c'est une chanson qui est pratique, c'est que quand on peut la chanter, on peut chanter une autre chanson de Brassens que j'aime beaucoup, qui est La Prière, parce qu'elle a la même musique. Voilà, c'est là que je ne veux pas vous la chanter.
Celle-là, vous ne la chanterai pas. Votre maître, celui qui a été votre professeur maître, le professeur Régnier, dit de vous, elle est acharnée au travail, peut-être trop. Il m'arrivait de lui dire qu'il n'y avait pas que cela dans la vie. Est-ce qu'il y a autre chose dans votre vie, Lila Boadma, que votre travail de réanimatrice, que votre sacerdoce de médecin ?
Alors oui, en fait, j'aime plein de choses, beaucoup trop de choses, en fait, parce que dès que j'aime quelque chose, je le fais à fond. Bien sûr, il y a d'autres choses. Alors après, on peut parler d'amour, etc. J'ai dit à Solène de Royer, mais elle ne l'a pas écrit, parce que je pense que ça la choque profondément, que je me sens incompétente sur le sujet, ou inapte, je ne sais pas très bien dire, quelque chose dans ce genre-là, voilà.
Vous êtes incompétente sur l'amour ?
Ouais.
Vous n'avez jamais été amoureuse ?
Je crois pas.
Vous n'avez jamais eu le cœur qui bat pour quelqu'un ?
Alors, faut pas que je dise ça, parce que malheureusement, des hommes qui vont sentir... Voilà, mais je crois que non.
Des hommes qui vont être déçus, qui pensaient que vous les aimiez ?
Oui. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on me dit, c'est « mais t'as pas rencontré le bon », etc. Enfin, j'ai 50 ans, donc forcément, faudrait être quand même extrêmement difficile. Non, il y a quelque chose, je pense, de l'attachement qui est difficile, de la confiance, du laisser-aller. Voilà.
Vous n'êtes pas doué pour lâcher prise, n'est-ce pas ?
Non.
Chloé Berthelus, pour revenir à la chirurgienne du début, Chloé Berthelus dit « Je peux dire aujourd'hui que je regrette de ne pas avoir eu d'enfant ». Elle le dit avec une force et une sincérité désarmante, parce que on le dit rarement, ça. Mm. Et vous ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le même cas de figure, parce que j'ai toujours su, et je ne sais pas pourquoi, que je n'aurais pas d'enfant, que c'était une impossibilité. Pour moi, il n'y a pas du tout de regret. Je crois que j'aurais été une extrêmement mauvaise mère parce que voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a l'idée de la mère qui ne touche pas, qui... Non, je crois que je ne peux pas.
Mais ce n'est pas un regret.
Pas du tout.
Et aujourd'hui, vous avez 50 ans, vous le dites. Mmh. Prendre de l'âge, est-ce que les rides, est-ce que la vieillesse est quelque chose qui vous angoisse, ou comme d'autres femmes, ou pas du tout ?
Alors, j'adore vieillir.
j'étais sûre que vous alliez dire ça.
J'adore vieillir. Non, mais en fait, pour moi, il n'y a pas quelque chose de l'abandon d'une jeunesse ou d'une beauté flamboyante. Ça, c'est déjà réglé depuis longtemps. Et longtemps, il y a eu un décalage entre l'impression que je pouvais donner, l'âge qu'on pouvait me donner, et puis ce qu'il y avait dans ma tête. Et c'était vraiment très conflictuel. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et vraiment, vieillir, je pense que ça m'apporte beaucoup de choses. À condition qu'évidemment, mais comme tout le monde, hein, je sois fonctionnellement capable encore de faire des choses. Ça ne me gêne aucunement, vraiment.
Quels sont vos plaisirs dans la vie, Lila Bouadma, à part la médecine? Alors, et planter des plantes, puisqu'il y en a pas mal dans votre maison,
ouais, il y en a beaucoup.
Dans votre appart.
Non, mais j'aime beaucoup planter, j'aime beaucoup décorer, donc je fais les travaux moi-même. Ça avance pas beaucoup, hein, vous pouvez voir. J'aime le design, j'aime aller au cinéma, j'aime lire, j'aime faire du vélo, etc. Donc non,
donc
je peux
y a
faire
quand
plein
même
de choses,
ouais,
bien sûr.
Il y a quand même les plaisirs inutiles sont là.
Ouais.
Quelques questions de fin pour terminer. Vous répondez ce que vous voulez, spontanément ou pas. Vous êtes un homme pendant 24 heures, Lila Bouadma, vous faites quoi?
Mon Dieu. Je ne sais pas, je me cache. Non, je ne sais pas. Non, c'est vraiment pas...
Vous êtes la seule qui ne me répond pas, je ferai l'amour avec 18 femmes en une journée.
Quelle horreur.
Liberté, égalité, fraternité, vous préférez quoi?
Liberté.
Quels sont vos vices? L'alcool, la drogue, la clope?
Rien de tout ça.
Pas de vices?
Non.
Les réseaux sociaux, vous vous y êtes mis?
Jamais, non.
Est-ce qu'il y a eu trop de médecins à la télé cette dernière année?
Oui.
Qu'est-ce qui vous indigne?
Beaucoup trop de choses, je crois. Et j'ai un peu honte, à vrai dire. Je pensais que ma vie d'avant, la pandémie, était parfaite. Et au fond, quand je la juge maintenant, je la trouve extrêmement superficielle, très auto-centrée. Je ne me suis pas préoccupée des sujets, j'aurais dû.
Vous êtes plutôt professeur Delfrécy ou professeur Raoult?
Delfrécy.
La série Urgence ou la série Hippocrate?
Urgence.
Si vous n'aviez pas été médecin, vous auriez fait quoi?
Alors, je vous l'ai déjà dit, j'aime l'ordre, la rigueur, la hiérarchie. Je crois que j'aurais été militaire.
Militaire? Vous êtes croyante, Lila Bouadma?
Ah, pas du tout. Non. Non, j'aurais aimé.
Vous avez beaucoup menti dans cet entretien?
Ah non, jamais, je ne mens pas. Non, c'est pas trop...
C'est pas votre truc, le
mensonge. Non, changer d'avis, voilà, me contredire parce que je ne suis pas parfaite, etc. Mais mentir, non. À partir du moment où j'accepte de parler aux gens, je ne mens pas, non.
Merci infiniment.
C'est moi, merci.
Pour cette parole sans filtre. Merci, Lila Bouadma, d'avoir répondu à mes questions.
YO de Michel sur Inter. Cette émission était préparée par Paola Puerari, Alexandre Gilardi, Marie-Elisabeth Jacquet et Alexandra Brouillet. À la prise de son, Romain Lequins, à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation, Hélène Biziot